Bonsoir. Nous vous proposons ce jour une émission particulière réalisée en collaboration avec l'association artistique Parlons-en. Il s'agit de l'adaptation radiophonique de la pièce de théâtre Inconnue à cette adresse. Cette pièce a été écrite par l'auteur Catherine Cressman-Taylor, qui a vécu de 1903 à 1996, et la pièce a été publiée pour la première fois en 1938. Ce texte a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1944 par William Cameron Menzies. La pièce est actuellement donnée à Paris, au Théâtre Antoine, depuis janvier 2012, dans une adaptation de Michel Lévy-Bram et une mise en scène de Delphine de Malherbe, avec chaque mois une distribution différente de deux acteurs médiatiques. Pour nous, elle sera interprétée par deux acteurs non médiatiques, mais d'au moins aussi grand talent, comme vous allez pouvoir le constater, Bernard Gerland et Éric Guérin. Il s'agit d'une coproduction Association artistique Parlons-en et Grec Production. Pour les représentations publiques, elle a été mise en scène par Christian Nadin. Cette pièce prend la forme d'une correspondance épistolaire fictive étalée du 12 novembre 1932 au 3 mars 1934 entre deux amis, Martin Schulz, 49 ans, marié et père de trois garçons, et Max Eisenstein, 50 ans, célibataire. Ils ont créé une galerie d'art à San Francisco, la galerie Schulz-Eisenstein, qui est très prospère. Martin est allemand, Max est américain et a fait ses études en Allemagne. D'origine juive, il choisit d'aller vivre et travailler en Amérique. Et dès lors, les deux amis vont entretenir une correspondance dans cette période devenant de plus en plus dramatique avec la montée du nazisme qui va subvertir leur relation. Vous entendrez à la fin de la pièce, en guise de post-scriptum, un texte de Martin Niemöller, écrit au camp de concentration de Dachau en 1942, qui sera dit par Frank Taponor, sur un morceau de musique de piano du musicien tunisien Anouar Brahem, Le pas du chat noir. L'intégrale de la pièce sera encadrée dans cette version radiophonique de deux pièces pour piano de Joseph Kosma, interprétées par Jeff Cohen. Au début, le chant du ghetto 6, petite ballade, et tout à la fin, le chant du ghetto 3, la question éternelle. Bonne écoute.
Max Eisenstein, nationalité américaine, d'origine juive, célibataire. Je réside à San Francisco. Je suis très attaché à ma jeune sœur Grisel, dont la carrière de comédienne commence à prendre une bonne tournure et va la mener jusqu'en Allemagne.
Martin Schulz, nationalité allemande, marié à Elsa, jeune femme issue de la bourgeoisie. Nous avons ensemble trois garçons, dont Heinrich, premier des trois. Elsa donnera naissance à un quatrième, Adolphe. Après mon mariage, j'ai quitté l'Allemagne pour les États-Unis. Je viens de rentrer au pays, à Munich, où ma fortune acquise outre-Atlantique me permet de vivre comme un milliardaire. J'ai eu une aventure sentimentale avec Grisel, la jeune sœur de Max.
Nous sommes tous les deux marchands de tableaux et hommes d'affaires.
Nous possédons en association une galerie très prospère à San Francisco.
Notre correspondance commence en novembre 1932, quelques mois avant la nomination d'Adolf Hitler à la chancellerie.
L'Allemagne est en plein marasme économique. Elle se remet difficilement de sa défaite de 1918. Elle compte 14 millions de chômeurs.
San Francisco, le 12 novembre 1932. Mon cher Martin, te voilà de retour en Allemagne, comme je t'envie. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves, une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il y fera bon vivre. Ta nouvelle adresse a fait grosse impression sur moi. Personnellement, je ne suis pas aussi heureux que toi. Le dimanche matin, je me sens désormais bien seul. Mon dimanche américain, c'est maintenant au-delà des vastes mers que je le passe, en pensée avec toi. Je revois ta grande et vieille maison à San Francisco, la chaleur de ton accueil, et notre chère Elsa, si gaie, qui accourait vers moi radieuse en s'écriant « Max, Max !» Et vos merveilleux garçons, surtout ton Heinrich, si beau, quand je le reverrai, il sera déjà un homme. Naturellement, tu as bien fait de partir. Malgré ton succès ici, tu n'es jamais devenu américain. Et maintenant que notre affaire est si prospère, tu te devais de ramener tes robustes fils dans leur patrie pour qu'ils y soient éduqués. Ici, les affaires sont toujours bonnes. Madame Levin a acheté le petit Picasso au prix que nous demandions, ce dont je me félicite. Il n'empêche que je n'ai pas ton merveilleux savoir-faire pour vendre à des matrones juives. J'ai reçu hier une charmante lettre de Grisel. Elle me dit qu'il s'en faut peu pour que je devienne fier de ma petite sœur. Elle a le rôle principal dans une nouvelle pièce qu'on joue à Vienne et les critiques sont excellentes. Les années décourageantes qu'elle a passées avec de petites compagnies commencent à porter leurs fruits. Pauvre enfant, ça n'a pas été facile pour elle, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle a du cran, en plus de la beauté et, je l'espère, du talent. Elle me demande de tes nouvelles, Martin. Avec beaucoup d'amitié, plus la moindre amertume de ce côté-là. Ce sentiment passe vite à son âge. Il suffit de quelques petites années pour que la blessure ne soit plus qu'un souvenir. Bien sûr, aucun de vous deux n'était à blâmer. Ces choses-là sont comme les tempêtes. On est d'abord transi, foudroyé, impuissant, et puis le soleil revient. Il ne reste à Grisel que le souvenir de la douceur et non plus le chagrin. Je n'ai pas écrit à ma petite sœur que tu étais rentré en Europe, mais je le ferai peut-être, si tu penses que c'est judicieux. Elle ne se lit pas facilement et je sais qu'elle serait contente de sentir qu'elle a des amis non loin. 14 ans. 14 ans déjà que la guerre est finie. J'espère que tu as entouré la date en rouge sur le calendrier. C'est fou le chemin que nous avons parcouru en tant que peuple depuis le début de toute cette violence. Mon cher Martin, laisse-moi à nouveau t'étreindre par la pensée et transmets mes souvenirs les plus affectueux à Elsa et au garçon, ton fidèle Max.
Munich, le 10 décembre 1932. Max, mon cher vieux compagnon. Merci de la promptitude avec laquelle tu m'as envoyé les comptes et le chèque. Mais ne te crois pas obligé de me commenter nos affaires avec un tel luxe de détails. Tu sais que je suis d'accord avec tes méthodes. D'autant qu'ici, à Munich, je suis débordé par mes nouvelles activités. Nous sommes installés, mais quelle agitation! Comme je te l'ai dit, il y avait longtemps que cette maison me trottait dans la tête et je l'ai eue pour un prix dérisoire. 30 pièces. Et un parc de près de 5,5 hectares. Ah, tu n'en croirais pas tes yeux, Max. Nous sommes donc très admirés, pour ne pas dire enviés. L'importance de nos revenus transatlantiques nous place dans la catégorie des nantis. Quant à Elsa, elle est à nouveau enceinte. Pour les enfants, il y a un précepteur et 3 poneys. Mais les 2 petits ne sont pas encore en âge de monter. Leur allemand est exécrable. Tristement matiné d'anglais. Tu ignores, Max, à quel niveau de misère est réduit mon pays depuis sa défaite de 1918. Les comestibles de qualité sont extrêmement rares. Les troubles politiques sont fréquents, même maintenant, sous la présidence de Hindenburg, que j'admire beaucoup. D'anciennes relations me pressent déjà de participer à la gestion municipale. J'y songe. Un statut officiel pourrait être tout à fait à notre avantage, localement. Quant à toi, mon bon Max, ce n'est pas parce que nous t'avons abandonné que tu dois devenir un misanthrope. Tu me parles de Griselle. Ah, cet amour de fille a bien gagné son succès. Je m'en réjouis avec toi. Encore que, même aujourd'hui, le fait qu'une jeune fille seule soit obligée de se battre pour réussir me révolte. N'importe quel homme peut comprendre qu'elle était faite pour le luxe et la dévotion, pour une vie facile et charmante où le bien-être épanouirait sa sensibilité. Ses yeux noirs reflètent une âme grave, mais aussi quelque chose de dur comme l'acier et de très audacieux. C'est une femme qui ne fait rien ni ne donne rien à la légère. Hélas, oui hélas, cher Max, comme toujours je me trahis. Tu as gardé le silence durant notre aventure orageuse, mais tu sais combien ma décision m'a coûté. Tu ne m'as fait aucun reproche, à moi ton ami, quand ta petite sœur souffrait, et j'ai toujours senti que tu savais que je souffrais également et pas qu'un peu. Mais que pouvais-je faire? Il y avait Elsa et les enfants encore petits. Toute autre décision eût été inopportune. Bien sûr que tu peux lui donner notre adresse. Nous sommes si près de Vienne qu'elle aura ainsi l'impression de n'avoir qu'à tendre la main pour avoir un foyer. Tu te doutes qu'Elsa, qui ignore les sentiments que Griselle et moi avons éprouvés l'un pour l'autre, recevrait ta sœur avec la même affection qu'elle t'a reçue toi. Oui, oui, il faut que tu lui dises que nous sommes ici et que tu la pousses à prendre contact avec nous. Félicite-la chaleureusement pour son beau succès de notre part. Elsa me demande de te faire ses amitiés et Heinrich brûle d'envie de dire hello à son oncle Max. Nous ne t'oublions pas, petit Max. De tout cœur à toi, Martin.
San Francisco, le 21 janvier 1933. Mon cher Martin, j'ai été heureux de pouvoir communiquer par écrit ton adresse à Griselle. Que de réjouissances en perspective quand elle vous rendra visite. Je serai avec vous par la pensée, de tout mon cœur, comme si j'y étais en personne. Tu évoques la pauvreté qu'il y a là-bas. Ici, ce n'est rien comparé aux privations que tu as constatées en Allemagne. Toi et moi, avons la chance d'avoir une galerie dont la clientèle est si fidèle. Ah, elle dépense certes moins qu'avant, mais même si nous vendons deux fois moins, nous vivrons encore bien. Les huiles que tu m'as envoyées sont de grande qualité. C'est incroyable que tu les aies eues à un prix aussi dérisoire. Elles vont partir de suite et nous allons faire un profit scandaleux. Hélas, Martin, j'ai souvent honte de moi-même pour le plaisir que je prends à ces petits triomphes futiles. Est-ce pour cela que l'on vit ? Pour gagner de l'argent par des procédés douteux et en faire étalage aux yeux de tous ? Je ne cesse de me faire des reproches, mais je continue comme avant. Malheureusement, nous sommes tous embarqués sur la même galère. Qui est cet Adolf Hitler qui semble vouloir accéder au pouvoir en Allemagne ? Ce que je lis sur son compte m'inquiète beaucoup. Embrasse les gosses et notre abondante Elsa, de la part de ton affectionné Max.
Munich, le 25 mars 1933. Cher vieux Max, tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici. Et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment, de l'intérieur, nous vivons les événements. Franchement, Max, je crois qu'à nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne. Mais je n'en suis pas sûr. Maintenant, c'est lui qui, de fait, est le chef du gouvernement. L'homme électrise littéralement les foules. Il possède une force que seul peut avoir un grand orateur doublé d'un fanatique. Mais je m'interroge. Est-il complètement sain d'esprit ? Ses escouades en chemise brune sont issues de la populace. Elles pillent. Elles ont commencé à persécuter les Juifs. Mais il ne s'agit peut-être là que d'incidents mineurs. La petite écume trouble qui se forme en surface, cambou le chaudron d'un grand mouvement. Car je te le dis, mon ami, c'est à l'émergence d'une force vive que nous assistons dans ce pays, une force vive. Les gens se sentent stimulés. On s'en rend compte en marchant dans les rues, en entrant dans les magasins. Ils se sont débarrassés de leur désespoir comme on enlève un vieux manteau. Ils n'ont plus honte. Ils croient de nouveau à l'avenir. Peut-être, oui, peut-être va-t-on trouver un moyen pour mettre fin à la misère. Quelque chose, j'ignore quoi, va se produire. On a trouvé un guide. Un fureur. Pourtant, prudent, je me dis tout bas, où cela va-t-il nous mener ? Vaincre le désespoir nous engage souvent dans des directions insensées. Naturellement, je n'exprime pas mes doutes en public, puisque je suis désormais un personnage officiel. Au service du nouveau régime, je clame, au contraire, ma jubilation sur tous les toits. Ceux d'entre nous, les fonctionnaires de l'administration locale qui tiennent à leur peau, sont prompts à rejoindre le national-socialisme. C'est le nom du parti de Herr Hitler. Mais en même temps, cette attitude est bien plus qu'un simple expédient. C'est la conscience que nous, le peuple allemand, sommes en voie d'accomplir notre destinée. Que l'avenir s'élance vers nous, telle une vague prête à déferler. Nous aussi, nous devons bouger, mais dans le sens de la vague et non à contre-courant. De graves injustices se commettent encore aujourd'hui, mais tout cela est transitoire. Si la finalité est juste, tout cela sera vite oublié et l'histoire s'écrira sur une page blanche et propre. La seule question que je me pose désormais, vois-tu, Max, tu es le seul à qui je puisse me confier, est précisément celle-ci. La finalité est-elle juste ? Le but que nous poursuivons est-il meilleur qu'avant? Parce que tu sais, Max, depuis que je suis dans ce pays, je les ai vus, ces gens de ma race, et j'ai appris les souffrances qu'ils ont endurées toutes ces années. Le pain de plus en plus rare, les corps de plus en plus maigres, les esprits malades. Ils étaient pris jusqu'au cou dans les sables mouvants du désespoir. Ils allaient mourir. Mais un homme leur a tendu la main et les a sortis du trou. Tout ce qu'ils savent maintenant, c'est qu'ils survivront. Ils sont possédés par l'hystérie de la délivrance. Et cet homme est le lever d'air. Mais quel que fût le sauveur, ils auraient agi ainsi. Plaise à Dieu qu'il soit un chef digne de ce nom, et non un ange de la mort. À toi seul, Max, je peux avouer que j'ignore qui il est vraiment. Oui, je l'ignore. Pourtant, je ne perds pas confiance. Mais assez de politique. Notre nouvelle maison nous enchante et nous recevons beaucoup. Ce soir, c'est le maire que nous avons invité. Un dîner de 28 couverts. Tu vois, on étale un peu la marchandise, mais il faut nous le pardonner. Notre Heinrich a fait une conquête mondaine. Il montait son poney quand il s'est fait désarçonner et qui l'a ramassé? Le baron von Freisch en personne. Ils ont eu une longue conversation sur l'Amérique. Puis un jour, le baron est passé chez nous, nous lui avons offert le café, il a invité Heinrich à déjeuner chez lui la semaine prochaine. Ah, quel garçon ce Heinrich! Il fait la joie de tout le monde. Dommage que son allemand ne soit pas meilleur. Ainsi, mon cher ami, allons-nous peut-être participer activement à de grands événements. Ou peut-être nous contenter de poursuivre notre petit train-train familial. Mais nous ne renoncerons jamais à l'authenticité de cette amitié dont tu parles de façon si touchante. Notre cœur va vers toi, Max, au-delà des vastes mers. Et quand nous remplissons nos verres, nous ne manquons jamais de boire à la santé de l'oncle Max. Souvenir affectueux. Martin.
San Francisco, 18 mai 1933. Cher Martin, je suis bouleversé par l'afflux de reportages sur ta patrie qui nous parviennent. Comme ils sont assez contradictoires, c'est donc tout naturellement vers toi que je me tourne pour y voir plus clair. Je suis sûr que les choses ne vont pas si mal qu'on veut bien le dire. Notre presse s'accorde à parler d'un terrible pogrom. Qu'en est-il? Je sais que ton esprit démocrate et ton cœur chaleureux ne pourraient tolérer la brutalité, et tu me diras la vérité. Le fils d'Aaron Silbermann vient tout juste de rentrer de Berlin, et il paraît qu'il l'a échappé belle. Il raconte ce qu'il a vu, les flagellations, le litre d'huile de ricin forcé entre les lèvres et les heures d'agonie consécutives par éclatement de l'intestin. Des histoires affreuses. Ces exactions pourraient être vraies, elles pourraient en effet n'être que le résidu malpropre d'une révolution par ailleurs humaine, l'écume trouble, comme tu dis. Malheureusement pour nous, les Juifs, la répétition ne les rend que par trop familières, et je trouve presque incroyable qu'on puisse, aujourd'hui, au sein d'une nation civilisée, faire revivre à nos frères le martyr ancestral. Écris-moi, mon ami, pour me rassurer sur ce point. La pièce dans laquelle joue Grisel fait un triomphe et se donnera jusqu'à la fin du mois de juin. Elle m'écrit qu'on lui a proposé un autre rôle à Vienne et un autre encore superbe à Berlin pour cet automne. C'est surtout de ce dernier qu'elle me parle, mais je lui ai répondu d'attendre pour s'engager que les sentiments anti-juifs se calment. Bien entendu, son nom de scène n'a pas de consonance juive. De toute façon, il était exclu qu'elle monte sur les planches avec un nom comme Eisenstein. Mais pseudonyme ou non, tout chez elle trahit ses origines, ses traits, ses gestes, la passion qui vibre dans sa voix. Si les sentiments antisémites évoqués plus haut sont une réalité, elle ne doit en aucun prix s'aventurer en Allemagne, mais surtout en ce moment. Pardonne-moi, mon ami, pour la brièveté de ma lettre et l'absence de liberté d'esprit dont elle témoigne, mais je n'aurai pas de repos tant que tu ne m'auras pas rassuré. Je sais que tu m'écriras en toute honnêteté. Je t'en prie, fais-le vite. C'est haut et fort que je proclame ma foi en toi et mon amitié pour toi et les tiens. Ton fidèle Max.
Deutsche Bank, Munich, le 9 juillet 1933. Cher Max, comme tu pourras le constater, je t'écris sur le papier à lettres de ma banque. C'est nécessaire, car j'ai une requête à t'adresser. Je souhaite éviter la nouvelle censure qui est des plus strictes. Nous devons présentement cesser de nous écrire. Il devient impossible pour moi de correspondre avec un juif. Et ce le serait, même si je n'avais pas une position officielle à défendre. Si tu as quelque chose d'essentiel à me dire, tu dois le faire par le biais de ma banque, au dos de la traite que tu m'envoies, et ne plus jamais m'écrire chez moi. En ce qui concerne les mesures sévères qui t'affligent tellement, Max, je dois dire que, au début, elles ne me plaisaient pas non plus. Mais j'en suis arrivé à admettre leur douloureuse nécessité. La race juive est une plaie ouverte pour toute nation qui lui a donné refuge. Je n'ai jamais haï les juifs en tant qu'individu, toi par exemple. Je t'ai toujours considéré comme mon ami. Mais sache que je parle en toute honnêteté quand j'ajoute que je t'ai sincèrement aimé, non à cause de ta race, mais malgré elle. Le juif est le bouc émissaire universel. Et il doit bien y avoir une raison à cela. Et ce n'est pas la superstition ancestrale consistant à les désigner comme les assassins du Christ qui éveille une telle méfiance à leur égard. Mais ces ennuis juifs actuels ne sont peut-être qu'accessoires. Quelque chose de plus important se prépare. Si seulement, Max, je pouvais te montrer... Non, t'amener à constater la renaissance de l'Allemagne sous l'égide de son vénéré chef. Un si grand peuple ne pouvait pas rester éternellement sous le joug du reste du monde. Après la défaite de 1918, nous avons plié les Chines pendant 14 ans. Pendant 14 ans, nous avons mangé le pain amer de la honte et bu le brouet clair de la pauvreté. Mais maintenant, nous sommes des hommes libres. Nous nous redressons conscients de notre pouvoir. Nous relevons la tête face aux autres nations. Nous purgeons notre sang de ces éléments impurs. C'est en chantant que nous parcourons nos vallées. Nos muscles durs vibrent, impatients de s'atteler à un nouveau labeur. Nos montagnes résonnent des voix des anciens dieux de la guerre de la race germanique. Mais non, tout en t'écrivant et en me laissant aller à l'enthousiasme suscité par ces visions si neuves, je me dis que tu ne comprendrais pas à quel point tout cela est nécessaire pour l'Allemagne. Tu ne t'attacheras, je le sais, qu'aux ennuis de ton propre peuple. Tu refuseras de concevoir que quelques-uns doivent souffrir pour que des millions soient sauvés. Tu seras avant tout un juif qui pleurniche sur son peuple. C'est conforme au caractère sémite. Vous vous lamentez, vous les juifs, mais vous n'êtes pas assez courageux pour vous battre en retour, et c'est pourquoi il y a des pogroms. Hélas, Max, tout cela va te blesser, je le sais. Mais tu dois accepter la vérité Pour ma part, j'y adhère, corps et âme. Heinrich est officier dans un corps de jeunesse sous les ordres du baron von Freisch. Le nom de ce dernier rehausse encore notre maison, car il rend souvent visite à Heinrich et à Elsa aussi, qu'il admire beaucoup. Quant à moi, Max, je suis débordé de travail. Elsa ne s'intéresse guère à la politique, elle se contente d'adorer notre noble chef. Elle se fatigue vite ce dernier mois, cela peut signifier que le bébé arrivera plus tôt que prévu. Je regrette qu'on doive mettre ainsi fin à notre correspondance, Max. Il n'est pas exclu que nous nous retrouvions un jour sur un terrain où nous pourrons développer une meilleure compréhension mutuelle. Cordialement, Martin Schulz.
San Francisco, 1er août 1933. Mon cher Martin, je confie cette missive à un ami qui doit brièvement séjourner à Munich lors de ses vacances européennes. Je ne trouve plus le repos après la lettre que tu m'as envoyée. Elle te ressemble si peu que je ne peux attribuer son contenu qu'à ta peur de la censure. L'homme que j'ai aimé comme un frère, dont le cœur a toujours débordé d'affection et d'amitié, ne peut pas s'associer même passivement au massacre de gens innocents. Je garde confiance en toi et je prie pour que mon hypothèse soit la bonne. Il te suffit de me le confirmer par un simple oui, à l'exclusion de tout autre commentaire qui serait dangereux pour toi. Cela me convaincra que tu joues le jeu de l'opportunisme, mais que tes sentiments profonds n'ont pas changé, que je ne me suis pas leurré en te considérant comme un esprit démocrate et droit pour qui le mal est le mal, en quelque nom qu'on le commette. Cette censure, ces persécutions de tous les esprits libres, ces bibliothèques incendiées, cette corruption des universités susciteraient ton antagonisme, même si on ne levait pas le petit doigt contre ceux de ma race. Tu es un démocrate, Martin. Tu vois les choses à long terme. Je sais que tu ne peux pas te laisser entraîner dans cette folie par un mouvement populaire qui, aussi fort soit-il, est foncièrement meurtrier. Je peux comprendre pourquoi les Allemands acclament Hitler. Ils réagissent contre les injustices qu'ils ont subies depuis la fin de cette guerre désastreuse. Mais toi, Martin, tu es pratiquement devenu américain durant cette période. Je suis convaincu que ce n'est pas mon ami qui a écrit cette lettre, et tu vas me le prouver. J'attends un seul mot, ce oui qui rendra la paix à mon cœur. Écris-le vite. Mes amitiés à vous tous. Max.
Deutsche Bank, Munich, le 18 août 1933. Cher Max, on m'a remis ta lettre. La réponse est non. Tu es un sentimental. Tu ignores que les hommes ne sont pas tous faits sur le même modèle que toi. Tu leur colles une gentille petite étiquette de démocrate et tu t'imagines qu'ils vont agir en conséquence. Tu te trompes. Moi, un démocrate quasiment américain? Jamais. Je suis un patriote allemand. Un démocrate est un homme qui ne croit pas à l'action. Il se contente de tenir des discours creux sur les droits de l'homme. Il fait tout un tapage sur la liberté d'expression, mais qu'est-ce que la liberté d'expression? Tout juste une bonne occasion de rester assis sur son derrière en critiquant ceux qui agissent. Je vous le demande, mesdames et messieurs. Existe-t-il rien de plus futile qu'un démocrate? Et je connais bien l'espèce pour en avoir moi-même fait partie. Ils reprochent au gouvernement leur passivité, leur incapacité à instaurer le changement. Mais qu'un vrai chef émerge, un homme actif qui lui se met à la tâche, et quelle est alors la position du démocrate? Il est contre. Pour le démocrate, tout changement est mauvais. Ce que tu nommes chez ces bons esprits, les démocrates, je te cite, la vue à long terme des événements, n'est qu'une frousse intense de se retrousser les manches pour faire. Ah ! Ils adorent les mots et les nobles préceptes, mais ils sont parfaitement inutiles à ceux qui font le monde tel qu'il est. Seuls ces derniers, les hommes d'action, comptent. Ici, en Allemagne, un de ces hommes énergiques, essentiels, est sorti du rang. Je me rallie à lui. Non, comme tu le suggères, parce que, submergé par un courant, je ne peux faire autrement. Mais par libre choix. Maintenant, je suis vraiment un homme. Avant, je n'étais qu'une voix. Je ne m'interroge plus sur la finalité de notre action. Elle est vitale, donc elle est bonne. Si elle était mauvaise, elle ne susciterait pas autant d'enthousiasme. Tu dis que nous persécutons les démocrates, que nous brûlons les livres. Ah ! Tu devrais te réveiller, Max. Est-ce que le chirurgien qui enlève un cancer fait preuve de ce sentimentalisme niais ? Il taille dans le vif, sans état d'âme. Oui, nous sommes cruels. La naissance est un acte brutal. Notre renaissance l'est aussi. Mais quelle jubilation de pouvoir enfin redresser la tête ! Comment un rêveur comme toi, Max, pourrait-il comprendre la beauté d'une épée dégainée? C'est ce qu'est notre fureur. Mais tu n'as jamais rencontré un Hitler. Tu m'obliges à te répéter que tu ne dois plus m'écrire. Nous ne sommes plus en sympathie, tu devrais t'en rendre compte. Martin Schulz.
San Francisco, le 5 septembre 1933. Cher Martin, comme tu me l'as demandé, je te fais parvenir cette lettre à l'adresse de ta banque. Je te joins la traite qui te revient et les comptes du mois. Je suis dans l'obligation de te faire passer ce bref message. Grisel est partie pour Berlin. Elle est trop audacieuse, mais elle a si longtemps attendu son succès qu'elle n'est pas prête à y renoncer et elle se rit de mes craintes. Elle joue au théâtre Koenig. Tu es fonctionnaire du régime, je te conjure donc au nom de notre vieille amitié de la protéger. Va à Berlin si tu le peux et vois si elle n'est pas en danger. Tu seras chagriné de constater que j'ai été obligé de supprimer ton nom de la raison sociale de notre affaire. Tu sais qui sont nos principaux clients, des Juifs. Ils n'achèteront plus rien dans une maison qui porte un nom allemand. Je ne peux pas discuter de ton changement d'attitude, mais tu dois me comprendre. Je ne m'attendais pas à ce que tu nous défendes, nous les Juifs, parce qu'il est mon peuple, mais simplement parce que tu étais un homme épris de justice. Je te confie mon imprudente Grisel. Cet enfant ne se rend pas compte du risque qu'elle prend. Je ne t'écrirai plus. Adieu, mon ami. Max. San Francisco, le 5 novembre 1933. Martin, je te crie à nouveau car j'y suis obligé. Un sombre pressentiment me tenaille. J'ai écrit à Grisel dès que j'ai su qu'elle était à Berlin et elle m'a répondu par un mot très bref. Les répétitions se passaient brillamment et la pièce devait être incessamment à l'affiche. Ma seconde lettre, qui contenait plus d'encouragement, m'a été retournée, non ouverte, avec la mention inconnu à cette adresse. Quelle ténèbre véhicule ces mots. Comment pourrait-elle être inconnue au théâtre même où elle joue? Il s'agit sûrement d'un message signifiant qu'il lui est arrivé malheur. On sait ce qui s'est passé, mais vous n'en saurez jamais rien, dit c'est caché sur l'enveloppe. Elle est tombée dans une sorte de vide et il est inutile de la chercher. Voilà tout ce qu'on me dit par ces mots, inconnus à cette adresse. Martin, dois-je te demander de la trouver, de la secourir? Tu as connu sa grâce, son charme, sa beauté, et elle t'a donné ce qu'elle n'a donné à aucun autre homme, son amour. N'essaie pas de m'écrire. Je sais que je n'ai même pas besoin de demander ton aide. T'apprendre qu'elle est sans doute en danger suffit. Je la remets entre tes mains car je n'ai plus aucun recours. Max. San Francisco, le 23 novembre 1933. Martin. C'est par désespoir que je me tourne vers toi. Je ne pouvais pas laisser passer un mois de plus. C'est donc en avance que je te donne quelques précisions relatives à tes placements. Tu pourrais vouloir effectuer certaines modifications, ce qui me permet de joindre à ce relevé bancaire un appel au secours. Il concerne Griselle. Depuis 2 mois, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Mais des rumeurs en provenance d'Allemagne commencent à circuler. De juif à juif, on chuchote des histoires tellement horribles que je me boucherais les oreilles si je le pouvais, mais je ne le peux pas. Il faut que je sache ce qui lui est arrivé. Il faut que j'aie une certitude. Elle a joué une semaine dans la pièce berlinoise, puis le public, apprenant qu'elle était juive, l'a conspuée. Cette magnifique et téméraire enfant est malheureusement têtue comme une mule. Elle leur a renvoyé le mot « juive » à la figure, en leur disant qu'elle était fière de l'être. Certains spectateurs se sont levés furieux et ont sauté sur la scène. Elle a couru dans les coulisses. Quelqu'un a dû l'aider car elle a réussi à sortir du théâtre et à trouver refuge dans une cave où se cachait déjà une famille juive. Changeant son apparence du mieux qu'elle a pu, elle a alors décidé de rentrer à Vienne à pied, le train lui semblant trop risqué. Elle a dit aux gens qu'elle a laissé qu'elle serait en sûreté si elle pouvait arriver jusqu'à Munich, où elle avait des amis. Mon espoir, c'est qu'elle soit venue chez toi, car elle n'a jamais regagné Vienne. Envoie-moi un mot, Martin, et si elle n'est pas encore arrivée chez toi, fais une enquête discrète. Je suis fou d'inquiétude à l'idée qu'elle traîne sur les routes en pays hostile à l'approche de l'hiver. Dieu fasse que tu puisses m'envoyer un mot pour me rassurer. Max.
Deutsche Bank, Munich, le 8 décembre 1933. Cher Max, je regrette beaucoup d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ta sœur est morte. Malheureusement pour elle, elle s'est montrée stupide. Il y a 15 jours, elle est arrivée ici avec une horde de miliciens qui défilaient sur le chemin pratiquement sur ses talons. La maison était pleine de monde. Elsa n'est pas bien depuis la naissance du petit Adolphe le mois dernier. Le médecin était là, ainsi que 2 infirmières, tous les domestiques et les enfants qui couraient partout. Par chance, c'est moi qui ai ouvert la porte. Tout d'abord, j'ai cru voir une vieille femme, puis j'ai vu son visage. J'ai vu aussi les miliciens qui passaient déjà devant l'écueil du parc. J'avais une chance sur 1000 de pouvoir la cacher. Une domestique pouvait surgir à tout moment. Avec Elsa couchée là-haut, malade, comment aurais-je pu supporter que ma maison fût mise à sac? Et pouvais-je courir le risque d'être arrêté pour avoir tenté de sauver une juive et de perdre ainsi tout ce que j'avais construit ici? En tant que patriote, mon devoir m'apparaissait clairement. Elle avait montré sur scène son corps impur à de jeunes Allemands. Je devais la retenir et la remettre sur le champ aux miliciens. Mais cela, je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit « Tu vas tous nous faire prendre, Griselle. Cours vite te réfugier de l'autre côté du parc. » Elle m'a regardé dans les yeux. Elle a souri. Elle m'a dit « La dernière chose que je souhaite, Martin, c'est te nuire. Et elle a pris sa décision. Elle a toujours été une fille courageuse. Elle devait être épuisée car elle n'a pas couru assez vite et les miliciens l'ont repérée. Je suis rentré, impuissant. Quelques minutes plus tard, ses cris s'étaient tus. Le lendemain matin, j'ai fait transporter son corps au village pour l'enterrer. C'était stupide de sa part d'être venu en Allemagne. Pauvre petite Griselle, je partage ta peine. Mais, comme tu vois, je ne pouvais pas l'aider. Maintenant, je dois à nouveau te demander de ne plus m'écrire. Chaque mot qui arrive dans cette maison est désormais censuré. Et je me demande dans combien de temps à la banque ils se mettront à ouvrir mon courrier. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les Juifs, mis à part les virements bancaires et leurs reçus. C'est déjà bien assez fâcheux pour moi qu'une Juive soit venue chercher refuge dans mon domaine. Je ne tolérerai plus d'être associé d'une manière ou d'une autre, avec cette race. Martin.
San Francisco, le 17 janvier 1934. Très cher Martin, n'oublie pas l'anniversaire de grand-maman, elle aura 64 ans le 8. Les Fleischmann nous ont avancé encore 10 000 $. Cela devrait remplir pour un mois le quota de la Ligue des jeunes peintres progressistes. Mandelberg s'est joint à ceux qui soutiennent la Ligue. Surveille le marché et prépare-toi à partir pour Zurich après le 1er mai. L'oncle Salomon sera content de te voir et je sais que tu te fieras les yeux fermés à son jugement. Tante Reba dit de dire à Martin d'écrire plus clairement pour que ses amis puissent comprendre de quoi il parle. Et néanmoins, avant de partir pour Zurich, tu dois fournir à nos succursales les reproductions suivantes. Picasso 17 par 81 en rouge, Van Gogh 5 par 42 en blanc et Rubens 15 par 204 en bleu et jaune. Nous pouvons te verser 8 000 $ sur cette transaction. Commence le nouveau livre de compte numéro 2. Nous sommes avec toi par la prière, cher frère. Eisenstein.
Munich. Le 12 février 1934. Max. Mon vieil ami. Mon Dieu, Max. Sais-tu ce que tu es en train de faire? Tu ne peux imaginer mon désespoir. Ta dernière lettre ne m'est pas parvenue directement. Ils m'ont convoqué, me l'ont montré, et m'ont sommé de m'expliquer. Te rends-tu compte que tu es en train de me détruire? Les résultats de ta folie sont déjà terribles. On m'a révoqué de mon poste de fonctionnaire. Heinrich a été renvoyé des jeunesses hitlériennes sous le prétexte qu'il a une trop petite santé pour militer dans cette organisation. Dieu du ciel, Max, ne comprends-tu pas ce que cela signifie? Et Elsa, à qui je n'ose rien dire, qui ne comprend pas pourquoi les notables locaux refusent soudain ses invitations. Et le baron von Freich, qui ne la salue plus quand il la rencontre dans la rue. Oui, bien sûr. Je sais pourquoi tu as fait ça. Mais ne vois-tu pas que je ne pouvais pas intervenir? Que je n'ai même pas osé tenter d'intervenir? Je t'adjure maintenant, du fond de l'âme, d'arrêter. Non pour moi, mais pour Elsa et les garçons. Pense, Max, à ce que cela signifierait pour eux si on m'emmenait, et qu'ils ne sachent même pas si je suis vivant ou mort. Sais-tu ce que c'est qu'être envoyé dans un camp de concentration ? Je t'en supplie, cesse. Cesse, maintenant, que tout n'est pas encore totalement perdu. Désormais, c'est pour ma vie que je crains, Max. Pour ma vie. Est-ce bien toi qui commets cette aurore ? Toi, mon bon vieux Max, que j'ai aimé comme un frère ? Mon Dieu, mais tu n'as donc pas de pitié ? Assez. Je t'en supplie, arrête. Tant qu'on peut encore me sauver. C'est du fond de mon cœur, rempli pour toi d'une vieille affection, que je t'implore. Martin.
San Francisco, 3 mars 1934. Martin, notre frère. Il pleut ici depuis 18 jours. Quelle saison pourrie. Une cargaison de 1500 brosses à l'usage de tes jeunes peintres devrait parvenir à la succursale de Berlin. Cela laisse du temps pour s'entraîner en vue du grand événement. Des mécènes américains t'aideront en te fournissant tout le matériel qu'ils pourront. Mais ce sera à toi de t'occuper des derniers préparatifs. Le cousin Julius vient d'avoir 2 garçons de 4,5 kg. Toute la famille se réjouit. La dernière cargaison de toile a été retardée en raison de certains problèmes concernant les communications internationales. Nous laissons les plans finaux à ta discrétion, mais fais en sorte d'avancer la date de l'exposition pour qu'elle soit un vrai succès. Que le Dieu de Moïse soit à ta droite. Eisenstein. Cette lettre me fut retourné quelques semaines plus tard avec la mention « Inconnu à cette adresse ».
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit. Je n'étais pas catholique. Ils sont venus me chercher et il ne restait personne pour dire quelque chose.
Ainsi se termine notre émission, qui était la diffusion d'une adaptation radiophonique de la pièce de théâtre « Inconnue à cette adresse » de Catherine Cressman-Taylor. Elle était mise en onde par nos soins pour l'émission Vendémiaire, a été interprétée par Bernard Gerland de la compagnie Parlons-en, avec Éric Guérin de Grec Productions. Bonsoir. Thank you.